Père Céleste, nous sommes rassemblés ce soir encore au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Parce que lorsque c'est le cas, nous avons la promesse de sa présence parmi nous. Et c'est cela que nous recherchons. Nous sommes venus chercher un peu de réconfort auprès de lui, des instructions également pour savoir comment marcher. Nous voulons lui qui peut allumer la lumière, qui nous éclaire le sentier. Que chaque pas que nous accomplirons le soit dans la bonne direction. Nous te remercions pour ce soir, pour l'occasion que tu nous donnes. Nous te remercions pour la réunion, pour les cantiques qui ont été chantés, les prières qui t'ont été adressées. L'adoration qui t'a été apportée. Et pour la parole qui sera apportée. Quelques conseils venant de ta part, toi le conseiller. Nous attendons cela et avec un cœur obéissant et soumis à toi. Pardonne nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous et que tu prennes le contrôle de toutes choses parmi nous. Sois béni, sois loué. Nous t'adressons notre prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, bénisse. Salut dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, juste pour vous dire, ce dimanche, vous dormirez une heure de moins, je crois que vous le savez. Le passage à l'heure d'été, c'est samedi à dimanche, je crois. Ok ? Ne soyez pas désolé, c'est pas moi qui décide. C'est une aberration. En fait, cette heure est rajoutée juste pour qu'ils puissent passer une heure de plus sur les terrasses pendant la soirée. C'est le monde. C'est tellement important pour eux, cette heure de terrasse. Nous allons lire dans Matthieu 14. Verset 22, après avoir multiplié le pain. Pour 5000 personnes. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent : « C'est un fantôme », et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur bénisse sa parole. On va lire dans Matthieu 28. Le Seigneur dit ceci. Verset 20, et enseignez-leur les nations, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Après qu'il vous ait dit cela, et que vous retrouviez, après une multiplication de pain, après avoir essuyé une tempête dans Matthieu chapitre 8, lui étant dans la barque, le Seigneur vous dit, vous demande, il vous oblige à aller de l'autre côté. Que feriez-vous? Iriez-vous ou resteriez-vous quand même avec lui? J'ai sorti ce message, le message que Frère Branham a prêché, c'est moi. Et il a lu ce passage en Matthieu 14. Ils sont partis. J'ai oublié le message à la maison, je ne l'ai pas amené. Ils sont partis sans lui. Il dit, ne faites jamais ça. Ne partez jamais sans lui. Il dit, amène à ça. Quelqu'un lui a dit, mais frère Abraham, c'est lui qui a obligé les disciples à partir. Il dit oui, même si c'est lui qui les a obligés, ne partez jamais sans lui. Parce que vous avez pu constater dans Matthieu 8, il est le maître de la mer. Vous ne savez pas ce qui vous attend en mer. Vous ne savez pas quelle tempête vous pouvez essuyer. La météo peut sembler être calme, mais changer tout d'un coup. C'est déjà arrivé et ça arrive souvent. Et étant donné qu'il soit parti seul, qu'ils soient partis sans lui, ils se sont retrouvés dans une situation difficile. On va juste intituler cela comme c'est écrit, là, il obligea les disciples à passer avant lui de l'autre côté. Mais c'est une exhortation juste pour nous pousser à ne jamais entreprendre un quelconque voyage en mer, sur terre ou comme vous voulez, sans lui. Il est notre protecteur. Il est celui qui nous garde. Tout à l'heure, en venant ici, il y a quelqu'un qui a une dame qui a freiné brusquement devant moi. Encore un peu, je prenais sa voiture. Mais je crois que c'est lui qui nous a aidés pour que on ne cogne pas. Et je crois que si c'était une promenade comme cela, sans que lui ne soit impliqué, c'est fort possible qu'il y aurait eu un crash. Mais je suis content qu'il est toujours avec nous. Je suis content de savoir qu'il est là. Quand il y a une tempête, je suis content de savoir qu'il est dans la barque. C'est ça qui nous rassure. C'est une erreur, dit le frère, d'être parti sans lui. Je vais vous lire ce que le frère dit dans le paragraphe 22, mais j'ai oublié la brochure, c'est pas grave, je vais vous le dire de mémoire. Je vous l'ai dit d'ailleurs. Et partir sans lui, les troubles ont commencé. Le voyage semblait, enfin la traversée semblait être sans histoire au début, mais c'est quand ils sont arrivés, verset 24, ils sont arrivés au milieu de la mer. Donc, toute une moitié du chemin qu'ils ont accompli, eh bien, il n'y a pas eu de problème. Les problèmes ont commencé une fois au milieu de la mer. Ça veut dire que la distance entre le point de départ et le point d'arrivée est la même. On ne savait pas s'il faut faire demi-tour ou aller vite faire pour fuir la tempête, vite faire pour aller quand même vers le but. On ne savait pas ce qu'il faut faire. Et ils ont commencé à avoir difficile à ramer. La mer, la barque était battue par les flots. Le vent est contraire. Toute chose leur est contraire. Et ramer dans ces conditions est compliqué, je crois que nous l'avons déjà prêché. Vous savez, on dit toujours, il ne faut jamais négliger l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a été écrit pour nous instruire. Et dans le livre des rois, nous voyons en type Christ et l'Église. Et cela nous montre l'attitude à prendre en tant qu'Église. Dans 2 Rois chapitre 2, où que vous alliez, quoi que vous fassiez, n'allez jamais sans lui. J'ai vu des images vidéo sur Internet, des crashs où un camion sort comme ça d'un buisson à l'improviste. Vous voyez les routes qui vous mènent à l'étranger. Ces routes-là, par exemple, vous allez en Espagne, les routes en Espagne, elles sont très dangereuses. Quand vous y allez, il y a un camion qui sort comme ça brusquement de la végétation, qui entre sur la chaussée. La voiture qui venait à toute vitesse, comme c'est une autoroute, a été surprise. Et la voiture s'est écartée du camion, donc a pris la bande inverse. Et la bande inverse, une autre voiture venait. Le crash était terrible. Et j'ai pensé au nombre de fois qu'on prend la route. Ce genre de choses ne nous est pas arrivé. Je dis merci Seigneur. C'est Dieu qui nous garde sur le chemin. Alors nous disons dans 2 Rois chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Amen. Et ils descendirent à Bethel. Une fois, je ne te quitterai point. Les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée lui dire, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Deux fois, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Trois fois. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y a un frère qui a composé un cantique. Il dit, jusqu'au bout, je veux te suivre. Pas arrêté en chemin, je l'ai bien suivi jusqu'ici, ben, tout ira bien. Quand on part comme cela sans lui, c'est qu'on a quelque part confiance en nos moyens. Mais lorsqu'on vient à l'assemblée, on chante « Sans lui, je ne peux rien faire ». Mais en fait, on le chante sans réaliser. Il faut vraiment réaliser que sans lui, on ne peut rien. Sans lui, c'est impossible. Vous allez dire « Oui, mais je le fais. Pourtant, je n'ai pas prié avant. » D'accord, mais c'est une grâce. Parce qu'il peut vous bloquer le dos là. Votre dos peut vous lâcher d'une minute à l'autre. Votre jambe peut vous lâcher d'une minute à l'autre. On a besoin de réaliser, je crois que c'est, je lisais dans un livre où un frère disait ceci, il dit, un croyant qui sort de chez lui sans avoir prié, quelle folie. Quelle folie de ne pas demander au Seigneur, Seigneur, viens avec moi, puis-je aller là-bas, si je peux y aller, sois avec moi. Quand un frère vient ou une sœur vient avec une requête, je voyage, je pars, je peux m'absenter, prier pour moi, c'est justement nous prions pour que le Seigneur soit avec lui ou avec elle tout au long de son voyage. Je crois qu'on en a besoin. On a besoin de sa présence. Trois fois, je ne te quitterai point. C'est l'attitude que l'Église devrait avoir. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce frère-là. Et il est parti jusqu'à ce qu'il ait reçu quelque chose de la part d'Élie, Élisée. Élisée savait qu'Élie marchait par l'Esprit de Dieu. Et pour pouvoir continuer le chemin, si Élie n'est pas là, autant que l'Esprit qui était sur Élie soit sur lui. C'est ce qui comptait. Que l'Esprit qui était en Christ soit sur nous. Et c'est une promesse de Dieu. Alors Élie prit son manteau, le roula, et bon, ça c'est quand ils arrivent au bord du Jourdain, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Ils constatent qu'avec Élie, le Jourdain ne les arrête pas. Il n'y a aucun obstacle qui les arrête. Les fils de prophètes ne les arrêtent pas. Tous ceux qu'ils rencontrent ne les arrêtent pas, même s'ils essaient de les influencer. Eh bien non, il n'y a rien qui ne les arrête. Ils vont toujours de l'avant. Et l'Éternel avait appelé Élie. Et Élie donne l'ordre, comme il était le maître d'Élisée, il donnait des ordres, il lui dit, reste ici, si tu es bien. Non, il dit, c'est pas cette présence des fils de prophètes qui me plaît, c'est ta présence à toi, du moins de l'esprit qui est en toi. Et lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Alors à ce moment-là, quand il va recevoir cette double portion, il pouvait retourner. Et de la même manière que le Jourdain ne les a pas arrêtés à l'aller, le Jourdain ne va pas l'arrêter, lui, au retour. C'est le même Saint-Esprit qui vous conduit. Et en double portion. L'Église de Jésus-Christ doit être accrocheuse, s'accrocher à Christ. Elle doit s'attacher à lui. Ne jamais abandonner. La volonté, ne jamais avoir la volonté de marcher sans lui. N'ayez pas confiance en vos moyens. Ayez confiance aux moyens que lui vous donne. Où que vous soyez, où que vous allez, quoi que vous fassiez, attendez-vous à lui en toutes choses. Ruth a été attachante. Cette Moabite, dans le livre de Ruth, chapitre 1er. Ruth avait constaté, n'est-ce pas, que malgré tous les malheurs qui sont arrivés sur Naomi, sa belle-mère et son beau-père et même son mari, malgré tous ces malheurs-là, mais elle avait constaté que leur Dieu était différent de son Dieu à elle. Oui, c'est après les juges. Et avant Samuel. Verset 11. Naomi dit à ses deux belles filles, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. C'est l'attitude de l'Église. Qu'il y ait des malheurs, qu'il y ait des difficultés, quand vous êtes sûr que Jésus-Christ, c'est le Dieu créateur, manifesté dans la chair humaine, quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas. Ne le laissez pas s'éloigner. Quand il a quitté la maison de Marthe, de Lazare en tout cas, Marthe savait qu'il ressusciterait les gens au dernier jour. Elle le savait. Elle avait été enseignée. Mais ce qu'elle devait savoir, c'est que quand Jésus est dans la maison, ne le laissez pas partir. Laissez-le insister pour qu'il reste. Il aime ça. Il aime qu'on insiste de rester avec lui. Il aime qu'on brave certaines interdictions pour qu'on reste avec lui. Et rester avec lui, c'est vraiment rester avec lui et ne pas le mettre sur le côté et faire tout à fait autre chose. Non. Quand vous êtes avec lui, les gens dans la rue vont peut-être vous voir, vous êtes seul, mais vous lui parlez, lui vous entend. Vous n'êtes pas obligé de parler à haute voix. Vous pouvez lui parler en vous-même. Même si vous parlez à haute voix, les gens vont vous prendre pour un fou, croyant que vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Vous savez, Satan sait ça. C'est pourquoi il a fabriqué ces choses, ces appareils que vous voyez aujourd'hui. Les gens circulent dans la rue, on dirait qu'ils se parlent tout seuls. Ils font des gestes, ils font tout. Parce que bon, maintenant que les chrétiens sont plus proches de lui, il s'est révélé aux siens. En ces temps de la fin. Donc, il lui parle. Si maintenant vous dites, mais non, je suis en train de parler avec quelqu'un qui est là, les gens, ça risque comment dirais-je, de susciter la curiosité des gens. Alors, Satan sorti ces appareils que vous avez, avec lesquels les gens se promènent, ils parlent, quand ils parlent, ils ne sont pas seuls. Il y a quelqu'un au bout du fil. Mais vous de même, quand vous parlez au Seigneur, il est au bout du fil. Il est là, il vous entend. Ne l'ignorez surtout pas. Donnez-lui la première place. Marchez avec lui et soyez fiers de marcher avec lui. Et Orpa, une des belles filles de Naomi, elle s'est vite découragée, elle est partie. Par contre, Ruth, elle est restée. Naomi insiste, verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Elle avait ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et malgré tout ce qui nous est arrivé, ton Dieu sera mon Dieu. Abraham dit, c'est ainsi qu'elle a gagné Boaz. C'est ce que l'Église doit faire aujourd'hui. Peu importe ce qui vient ou ce qui s'en va, accrochez-vous à lui. Si l'Église se refroidit, peu importe ce qui arrive, je suis en train de lire là, heureusement j'ai écrit. Accrochez-vous à la main immuable de Dieu. Je viens de chanter là à Golgotha, c'est là que se trouve le chemin. Il dit, accrochez-vous au calvaire et restez là. Là se trouvent les bénédictions rédemptives. C'est là qu'il a été meurtri pour vos maladies. Par ses meurtrissures, vous êtes guéri. C'est là qu'il a supporté la douleur, ainsi que les souffrances, et ce sont nos douleurs ainsi que nos souffrances. Et le frère dit, c'est ainsi quand on s'accroche à lui, on s'accroche au calvaire, aux promesses que le calvaire libère pour nous. C'est ainsi qu'on peut recevoir quelque chose de sa part, quelque chose de Dieu. Accrochez-vous-y. Ne laissez pas le diable vous secouer pour vous en éloigner. Qu'il vous secoue ou pas, accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu le monde. Il est vainqueur parce qu'il a vaincu. Nous avons vaincu également. Et quand vous regardez les croyants, tout au long de la Bible, ils étaient accrocheurs. La situation pouvait se trouver inquiétante, mais ils s'accrochaient à cela. Ils s'accrochaient à lui. Dans Genèse, chapitre 28, Jacob fait un vœu au verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, je serai avec vous, n'est-ce pas? Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Il est parti et Dieu a entendu ce vœu. Il est resté là-bas, il a eu un bon boulot, il s'est mis à travailler, il était bien Il était bien payé par son beau-père. Il s'est marié. Il a multiplié. Là-bas, Dieu l'a béni. Et finalement, il était tellement bien qu'il a fini par s'installer. Il n'a pas songé à partir. Mais Dieu se souvient de sa prière. Dieu se souvient de son vœu, où il a dit, si l'Éternel me laisse retourner en paix dans la maison de mon père. Il devait quand même à un moment donné songer à rentrer dans la maison de son père. Mais il était tellement bien que il ne songeait pas à rentrer. Alors, Dieu intervient. Du coup, le fils de Laban, donc ses beaux-frères, ont commencé à le regarder d'un œil mauvais. Il se sentait de moins en moins à l'aise. C'est ainsi qu'il y a aujourd'hui l'antisémitisme dans le monde. Parce que Dieu veut que le figuier bourgeonne et fleurisse. Dieu veut inciter les Juifs à rentrer. Mais comme les Juifs, en s'éparpillant parmi les nations, ils se sont tellement enrichis, ils ont eu tellement d'argent, beaucoup ne songent pas à rentrer. Israël a besoin de rabbins. Il y a un rabbin là-bas à Orléans, en France, qui s'est fait agresser il y a 2, 3 jours, je crois. Il s'est fait agresser. Mais je crois que les Français n'ont pas besoin de rabbins. Les rabbins, c'est plus en Israël. Donner un culte juif en France, ben, ça n'encourage pas les juifs qui sont en France à rentrer chez eux. Mais quand vous voyez ça dans le psaume 100, je crois 138, vous voyez ça dans le psaume. Quand ils sont loin, ils pensent au temple. Ils pensent aux cantiques qui chantent qui chantaient au temple, dans le temple. Ils pensent à ces choses. Mais si vous leur donnez, si maintenant là-bas à Babylone, on leur avait construit, n'est-ce pas? On leur avait construit un temple où ils pouvaient faire les choses exactement comme à Jérusalem, je ne crois pas que cela les aurait embêtés. Ils seraient restés captifs, n'est-ce pas? Personne n'aurait cherché à prier pour rentrer. Ils allaient se mêler aux Babyloniens et finalement, ils allaient devenir Babyloniens. C'est le psaume 137, n'est-ce pas? Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion, au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Donc quand ils sont partis captifs, ils avaient leur harpe, mais leur harpe ne leur servait plus à plus rien du tout. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Donc, ce n'est pas fait pour une terre étrangère. C'est ça. Ces cantiques sont faits pour chanter là, dans la maison de l'Éternel. Et cette maison, en ce temps-là, se trouvait justement à Jérusalem. Et qui ça? Jacob, il devait rentrer. Parce que Dieu avait dit à Abraham que il le bénirait là-bas, dans ce pays-là, et que il bénirait sa postérité après lui également. Jacob était bien installé, trop bien. Alors, Dieu a permis que les fils de Laban commencent. C'était ses cousins normalement. C'était un peu la famille. Mais Dieu a permis que Jacob soit regardé d'un mauvais œil par ses beaux-frères. Jacob a pris tous ceux qui étaient. Non, il dit, Jacob entendit les propos des fils de Laban, Genèse 31. De Laban qui disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Or, si Jacob s'est enrichi, Laban aussi s'est enrichi. Mais le simple fait que Jacob, qui était arrivé avec rien du tout, il a fui sans emporter quoi que ce soit, il n'avait aucune richesse, et que maintenant il était devenu riche, les fils de Laban, ça les a embêtés. Ils n'étaient pas nécessiteux non, du tout, mais ça les a embêtés. Jacob remarqua aussi, même son oncle, le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors, Dieu vient lui parler, un peu comme pour lui rappeler son vœu. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Vous voyez, être avec lui, c'est que lui soit avec nous, c'est très important. Dans son vœu, c'était si l'Éternel est avec moi. Effectivement, Dieu lui dit, je serai avec toi. Partout où Dieu est prêt à être avec vous, n'hésitez pas. Suivez-le. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Et Dieu lui a demandé de rentrer dans le pays de ses pères. Mais il va y avoir des choses en chemin. Il va arriver par exemple à Sichem, il va s'y arrêter. Non, Dieu lui a dit de rentrer. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Pour le sortir de Sichem, il a fallu que quelque chose arrive. Et parfois, certaines choses nous arrivent parce que nous n'allons pas là où Dieu veut que nous soyons. Alors, pour nous obliger à partir, Dieu permet certaines situations. Mais ces situations-là ne doivent pas nous éloigner de lui. Ces situations-là, au contraire, doivent nous faire réfléchir. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que cela arrive? Si Dieu a permis que cela arrive, c'est que quelque part, j'étais dans un certain confort. Un confort qui n'est pas le confort d'un enfant de Dieu. Alors, Jacob, finalement, comme Dieu lui demande de rentrer, il s'est mis en chemin et il va arriver à un endroit avant d'arriver chez donc du côté de chez lui. Il arrive sur le territoire de son frère qu'il avait fui. Il va faire traverser sa famille pour apaiser, et même avec des cadeaux, des présents, pour apaiser la colère d'Ésaü. Mais bon, c'était des choses passées. Ésaü, Dieu l'a enrichi. Ce qui fait, il a oublié toute sa colère. Dieu est celui qui peut disposer les cœurs des personnes à qui vous êtes redevable. N'oubliez jamais ça. Dimanche, nous avons parlé de la repentance. La repentance, elle est importante. Faut pas que ça vous fasse peur. Ah, si je me repens, et en plus aussi, lorsque je suis dans le besoin, Jacques me dit, si vous êtes malade, Qu'est-ce qu'on fait? Appelez les anciens, n'est-ce pas? Ils vous voient un nom d'huile, ils prieront pour vous. Mais ils demandent quand même aussi à celui au nécessiteux, on lui demande de confesser ses péchés. Dans Jacques 5, n'est-ce pas? On lui demande de confesser. N'ayez pas peur de confesser. On confesse quelque chose, une faute, lorsque on regrette d'avoir commis la faute. Voyez? Et l'ayant regretté, le regret, ça c'est la repentance. Ça vous pousse à aller confesser, à essayer d'arranger cela. Et à ce moment-là, la prière pour vous, la prière, une fois que Dieu vous justifie, la prière du juste est efficace. Mais en tout point, en toute chose, que sa volonté soit faite. Alors, Ésaü, Dieu avait déjà disposé Ésaü depuis longtemps. Quand Dieu lui a dit, rentre au pays de tes pères, Ésaü était déjà riche. Lui, il avait toujours peur d'Ésaü. Mais Dieu lui dit, il vous parle dans votre cœur, là. Dieu vous parle la manière dont il parle à ses enfants. Il vous dit, rentre. Ah, mais il y a Ésaü qui m'attend. Dieu dit, rentre. Ésaü, Dieu s'en occupe. Alors, au verset 20 de chapitre 32, je peux commencer là. Il va donner des ordres à ses serviteurs de partir, d'aller vers Ésaü. Au verset 20, il dit, vous direz, voici ton serviteur Jacob, pardon, vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai. Apaisé par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Il avait fait une prière à Dieu. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Jacob a remarqué, en luttant avec cet homme, il a remarqué que cet homme était différent. Il a peut-être eu certaines luttes dans sa vie, mais cette lutte était différente. Et cette lutte est venue le frapper. Il a été frappé à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche s'est démise. Et malgré qu'il était devenu un peu, ça devait l'handicaper, peut-être que la douleur pouvait le paralyser, mais il avait quand même encore la force pour s'accrocher à ce monsieur. Vous voyez? Malgré ça, je crois que une emboîture de la hanche qui se déboîte, qui se démet, c'est pas rigolo. Ça peut faire hurler. Mais lui, malgré la douleur, ça peut faire mal, la chose. Mais ce n'est pas parce que ça fait mal qu'il faut lâcher Dieu. Ne le lâchez jamais. C'est douloureux, c'est vrai. Ça va vous faire marcher autrement. Ce que Frère Branham disait, ce que sa maman leur disait souvent. Quand il leur donnait des médicaments, ou bien il leur soignait certaines choses, certaines plaies ou quoi, ils pleuraient, eux tous, lui et ses frères, ils pleuraient comme quoi ça va faire mal. Et leur maman disait toujours, si ça ne te fait pas du mal, ça ne te fera pas du bien. Il faut parfois que certaines choses nous fassent du mal pour que nous fassions du bien. Pour ne pas rejeter quelque chose tout simplement parce que ça fait mal, non? Si Dieu veut que ça soit comme cela, allons-y. Et Jacob était accrocheur. Et l'homme qui se battait avec lui, lui dit, au verset 26, « Laisse-moi aller. On ne va pas continuer comme ça. » Il se fait jour. L'aurore se lève. Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller. » Il t'amène à ça. Pour s'accrocher. « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Ne le laissez pas partir tant que vous n'avez pas la bénédiction que vous avez besoin. Beaucoup lâchent l'affaire trop vite. Ça lui a pris toute une nuit à se battre. Et il s'en sort pratiquement avec un handicap. Mais il s'accroche toujours au Dieu de ses pères. Il a reconnu ce Dieu-là, l'a béni. Le Dieu-là a pris soin de lui, exactement comme dans son vœu. Hein. Et ce Dieu-là veille à ce qu'il rentre dans le pays de ses pères. Et il a dit, s'il fait ça, il sera mon Dieu. Alors, comme il a reconnu ça, il a dit, ben, c'est le même Dieu qui a béni mon père Abraham, qui a béni mon père Isaac. C'est le même Dieu qui va me bénir aussi. C'est pourquoi je veux aussi la bénédiction. Il dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Bénis-moi d'abord. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Trompeur. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Il a eu ce qu'il cherchait. Et Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Il faut être accrocheur. Dieu cherche des chrétiens accrocheurs. Pas ceux qui abandonnent à la première difficulté. Cléopas et son compagnon ne l'ont pas laissé partir non plus. Et pourtant, après les avoir réprimandés, disant « Oh, homme sans intelligence et tout », quand il a fini de parler ainsi, ça, c'était déjà à partir du verset 25, Luc 24. Il dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce qu'ils entendaient, Cléopas et son compagnon, ce qu'ils entendaient, ça réchauffait tellement leur cœur. Ils ne voulaient pas que ça s'arrête. Quand Dieu nous parle, on ne veut pas que ça s'arrête. On aime que ça continue. Mais à un moment donné, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il fut auprès du village où ils allaient, ben, vous arrivez quasiment à destination, il parut vouloir aller plus loin. Bizarrement, lui maintenant, il veut aller plus loin. Il veut s'en aller. Mais non, eux, ils vont le presser. Il faut s'accrocher. Mais ils le pressèrent en disant, non, non, reste avec nous. Car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Parce qu'ils se sont accrochés à lui, ils ont fini par avoir leurs yeux ouverts. Ils ont fini par le reconnaître. Et quand vous constatez que c'est avec lui que vous étiez, vous aurez une de ces joies indescriptibles. Seigneur était avec moi. C'est ce que vous allez dire. Il faut s'accrocher. Quand vous avez besoin de quelque chose de sa part, n'abandonnez pas. Accrochez-vous-y. Si il ne veut pas nous l'accorder, il nous fera comprendre que ce n'est pas bon. Vous reconnaîtrez que ce n'est pas bon. Mais, tant que nous sentons le besoin de recevoir la chose, demandons-le lui. Cet homme à la piscine de Bethesda, il a attendu 38 ans. Cette femme dans la synagogue, je crois que c'est 13 ans. Ou 18, je ne sais plus très bien. Mais dans Luc 13, elle a attendu. Que dire de la Cananéenne? Cette Cananéenne dont la fille était malade. Dans Matthieu 15, le Seigneur est brusque avec elle. Le Seigneur lui dit quelque chose qui pouvait lui faire mal. Très mal. Mais elle est restée accrochée à lui. Même les disciples ont demandé au Seigneur de la renvoyer parce qu'elle importunait les gens. Vous savez, il donne lui-même l'exemple de cette femme qui importune le juge. Nous en avons parlé ici il y a quelques semaines. Dieu, ça ne le dérange pas que vous ne l'importunez pas. Ça ne le dérange pas si vous insistez. Accrochez-vous à lui. Verset 21, Matthieu 15. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Je crois que beaucoup se seraient déjà levés, auraient tourné le talon et seraient partis. Elle reconnaît qu'elle est une chienne. « Oui, Seigneur, » dit-elle, « mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous voyez, quand je dis souvent aux gens, quand quelqu'un vient me dire, « Frère, je ne me sens pas bien, je sens que d'ici demain, je serai malade. » Ça, c'est un frère qui avait donné ce tuyau-là. On dit, « Eh bien, qu'il en soit fait selon ta foi. » Parce que ça dépend de votre foi. Si on prie pour vous, ne comptez pas sur la foi de celui qui prie pour vous. Comptez sur votre propre foi. À moins que vous soyez hors de votre esprit, que votre esprit soit en dehors de vous, vous n'avez plus le contrôle de vous-même, quelqu'un va prier pour vous. OK. Mais lorsque vous présentez, parce que vous avez un besoin, en tant qu'adulte chrétien, ce qu'on prie pour vous, essayez quand même de demander à Dieu de venir au secours de votre incrédulité, s'il y a incrédulité. Mais il s'agit de votre foi. Parce que si vous dites aujourd'hui qu'il en soit fait selon votre foi, et que vous avez des doutes en vous, ces choses vont se passer selon vos doutes. Parfois, quand on lit dans les évangiles, dans la parole de Dieu, ça donne l'impression que la foi que les bien-aimés avaient, la foi transmise aux saints autrefois, est un peu différente de la foi que nous avons aujourd'hui. Mon frère Abraham dit, quand vous avez une rage de dents, vous n'avez déjà pas de foi, alors qu'en sera-t-il de la foi de l'enlèvement? Et Jésus-Christ s'est interrogé là-dessus, disant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il ne s'est pas inquiété s'il y aurait une église sur la rue de Firlan, mais il s'est inquiété s'il trouverait la foi sur la terre. Bartimée également. Bartimée s'est accroché envers et contre tout. On a essayé de le faire taire, mais il est resté accrocheur. Il est resté tellement accrocheur que Jésus a fini par s'arrêter, malgré la foule qu'il y avait là. Dans Marc 10, ils arrivèrent à Jéricho, verset 46. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit, l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Il s'agit de votre foi. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Quand bien même, s'il vous dit, allez de l'autre côté, quand bien même il vous oblige à y aller, dites-lui, je ne te lâcherai pas. Je m'accroche à toi. Ne passez pas avant lui, seul, de l'autre côté. Devant la tempête, vous ne pouvez rien. Vous pouvez vous appeler Pierre, un pêcheur, connaissez bien la mer, mais il y a de ces tempêtes où vous entendez parfois, il y a des pêcheurs qui font naufrage, des habitués de la mer qui font naufrage. Et chaque fois que vous prenez ces choses-là, ces moyens de locomotion, de déplacement du monde, de l'homme humain, ces moyens humains, à chaque fois que vous arrivez, dites-lui merci. Dites-lui merci d'avoir été avec vous. Et surtout si sur le chemin, il y a eu des sirènes pour attirer votre attention. Mais vous avez continué la marche, les yeux fixés sur le but que vous avez, le but que vous avez en venant ici. Quel est votre but? C'est d'être enlevé. Nous nous battons tous pour être enlevés. Non seulement nous-mêmes, mais tous ceux que nous aimons, pour lesquels nous avons prié. Parce que comme il est dit, là-bas en haut, les noces de l'agneau ne seraient pas les noces de l'agneau sans eux. On aimerait bien qu'ils soient là. Et c'est pourquoi nous nous accrochons. Il y a des moments où nous avons des secousses. Mais ne nous décourageons pas. Jésus ne nous laissera pas définitivement seuls. Ils sont partis seuls, mais il les a rejoints. Tant que vous êtes à lui, il vous rejoindra si vous jamais vous l'avez laissé. Mais vous comprendrez que Pierre a dit la bonne chose, a dit, si c'est toi, permets que je marche. Effectivement, il ne pouvait marcher sur la mer que si Jésus, si c'était Jésus. Si ce n'était pas lui, il n'aurait pas pu le faire. Et cette mer en furie, ce sont les problèmes que vous rencontrez. Et que pouvoir marcher sur vos problèmes, ça, sans son aide, c'est tout à fait impossible. S'il tarde, il y aura un demain. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Mais s'il y a des difficultés demain, nous demandons à ce qu'il soit avec nous demain. Et s'il ne vient pas, si demain il ne vient pas, nous lui demandons aussi d'être encore avec nous après-demain, jusqu'à ce qu'il vienne. Et nous nous accrochons à lui. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père céleste, c'est vrai, Seigneur, nous ne voulons pas être coupables de cette folie de te laisser partir et de nous faire nous-mêmes confiance. C'est en toi que nous avons placé toute notre confiance. Assiste-nous, Père céleste. Sois avec nous comme tu l'as promis. Tu as dit que tu serais avec nous tous les jours. Et c'est tous les jours que nous comptons sur ta présence. Même s'il y a des choses faciles à faire, nous comptons toujours sur ton aide. Tant les choses faciles que les choses difficiles. C'est surtout vers toi que nous tournons nos regards. Merci pour la soirée que tu nous as accordée aujourd'hui. Merci pour le rassemblement. Merci pour tous ces bien-aimés d'autrefois qui nous ont montré cet exemple dans leur vie. L'exemple à suivre, nous voyons Élisée recevoir ce manteau qui lui est tombé du ciel, un peu comme le Saint-Esprit est tombé du ciel sur les disciples après que Jésus soit monté. C'est une promesse que tu nous as faite. Et selon ce que Élie disait à Élisée, c'était une chose difficile ce qu'il avait demandé. Mais il nous a permis de te demander des choses difficiles. Comme chante le bien-aimé, tu es le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, et nous le croyons de tout notre cœur. Pour nos maladies, nous croyons que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Non seulement pour nous, pas seulement pour nous-mêmes, mais nous le croyons aussi pour tous ceux que tu nous as donnés, qui ont besoin de ton intervention, qui ont besoin que tu viennes à eux, que tu leur augmentes leur foi, la foi que tu as porté les douleurs, tu t'en es chargé, tu as porté nos souffrances, tu as été meurtri pour notre guérison. Que cela ne soit pas juste une lecture que nous faisons, mais que cela soit imprégné en nous-mêmes, que cela soit une réalité au-dedans de nous. Bénis tes enfants ce soir, merci de raccompagner chacun dans sa maison. Le chemin que nous prendrons, nous avons aussi besoin de ton aide, nous avons besoin de ta protection et nous nous attendons à toi. Bénis les bien-aimés qui n'ont pas pu être là ce soir. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, dimanche, 1 heure de sommeil en moins. Donc, si vous dormez samedi à 21h, vous aurez dormi à 22h.